It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Qu'est-ce que tu as pensé là de notre bon, de l'extérieur, tiens, de notre bon Macron, chef de guerre, général Patton, tiens. Non ?
Non, mais c'est inquiétant parce que la France n'a absolument aucun intérêt à se mettre comme ça en avant dans une région, dans un conflit qui n'est pas le sien. On a très bien vu que c'est Israël et les États-Unis qui sont à la manœuvre. L'Iran réplique comme il se doit. Et si je vais au-delà de mes considérations personnelles, je regarde ça pas toujours par l'angle de la Chine. La Chine a rappelé à tout le monde qu'il était important d'abord, premièrement, d'avoir un cessez-le-feu immédiat, étant donné l'ampleur des combats actuellement, et un retour à la table des négociations. Mais on voit que c'est la Chine, avec la Russie, est un petit peu seule à réclamer un cessez-le-feu, un retour à la paix. On voit qu'en Occident, il y a une espèce d'embrasement, une espèce d'excitation guerrière, comme ça, avec chacun qui veut jouer le rôle du chef de guerre. Un coup, c'est Trump, un coup, c'est Netanyahou. Alors Netanyahou, il se fait discret là, depuis quelques jours. Mais maintenant, on a Macron qui veut envoyer une dizaine de bateaux dans le détroit d'Ormuz pour libérer le détroit d'Ormuz. On se demande comment il va faire, parce qu'est-ce qu'il va déclarer la guerre à l'Iran, ça semble complètement surréaliste vu de Paris et vu de Pékin. Mais on se retrouve une fois de plus dans une situation complète de vassal aux États-Unis, toujours avec une tentative de la part de Macron de jouer la carte de la souveraineté, de la puissance militaire, comme tu disais, d'une certaine dimension napoléonienne là-dedans. Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une démonstration différente de la vassalisation. Par rapport aux États-Unis, par rapport à Israël. Et puis, ça va être un accompagnement des pétromonarchies qui, elles aussi, ont été admonestées par Lavrov, hein, aujourd'hui, qui s'est étonné du fait qu'aucune d'entre elles n'avait condamné le meurtre, par exemple, de 170 filles dans une école iranienne, ou ni l'attaque comme ça préemptive qui a été faite sur l'Iran. Et donc, la France joue une fois de plus le mauvais rôle. Est-ce qu'on a la capacité, parce qu'on connaît l'état du Charles de Gaulle, est-ce qu'on a la capacité de faire vraiment une démonstration de force? Je pense que c'est encore là une histoire de communication de la part de Macron. Enfin, ça pourrait quand même mener à des morts dans l'armée française, et c'est moi, enfin, en tant que Français, c'est ce qui m'importe le plus, quoi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Laurent. Dis-moi, Jean-Michel, Macron à Chypre, qu'est-ce qu'il veut faire là? Il veut être le leader de l'Europe, comme il l'a écrit à Epstein?
Comme mon voisin vient de le dire, Macron adore être en guerre. Ça le rehausse, ça lui met des talonnettes. On pourrait peut-être l'appeler Nabo Léon le Petit, Napoléon, puisque c'est quand même un Bonaparte au très 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 petit pied. Oui, sur les 22 navires de guerre que la France possède, 19 sont partis pour la Méditerranée orientale. Tout cela est dérisoire, parce que il faut savoir que si l'Iran a frappé Chypre, il n'a pas frappé l'Union européenne, mais la base anglaise, qui est extraterritorial, c'est un territoire strictement britannique, et n'a pas agressé de quelque façon que ce soit cette Union européenne qui a du mal, qui n'a plus les moyens de payer les 90 milliards d'euros qu'elle a promis à l'Ukraine. Je ne sais pas, on s'est embarqué déjà dans cette galère ukrainienne. Nous sommes devenus de facto plutôt co-belligérant, va-t-on recommencer la même imbécilité, il n'y a pas d'autre terme, avec l'Iran? L'Iran ne nous a pas agressés. Alors on nous répète, et je termine là-dessus, hein, pour laisser la place aux camarades, que l'Iran a tué des Français, alors c'est en 83, l'immeuble de Raqqa. Mais on sait que le Hezbollah venait à peine de naître, donc le Hezbollah, et que le fameux camionnette piégé qui aurait fait sauter le Raqqa est imaginaire, c'est un mythe, et que de toute évidence, c'était une attaque, comme on dit aujourd'hui, sous faux drapeau, sous fausse bannière, sous faux pavillon, pour chasser les Français qui commençaient à gêner très très fortement. Donc l'Iran, a priori, n'a jamais perpétré de massacre de Français, mais c'est ce qu'on nous raconte, on n'a rien trouvé d'autre tous les soirs que Dieu fait.
Mais l'attitude de Macron, là, c'est une envie de se montrer à l'international, comme quoi il dirigerait quelque chose, mais c'est de la communication, non ?
Disons que les images sont tristes, elles sont pathétiques. J'ai l'impression, Macron à Chypre, Macron sur le Charles de Gaulle, bientôt Macron chez la pédicure, Macron à la plage. Bon, tout ça, ça n'a pas de sens, dans le sens où il n'a pas, comme qui dirait... la capacité de ses prétentions. Il se voit comme chef de guerre d'une armée qui est complètement à bout de souffle. Son entrée dans le conflit russo-ukrainien fait que effectivement l'Europe derrière faiblit de jour en jour. Là on voit que les réserves de munitions, c'est carrément c'est un cirque, hein, on voit qu'effectivement ils sont en pleine ramasse au niveau du conflit américo-israélo-iranien, et que même l'Ukraine se paye le luxe de se foutre de la tête, pour pas dire autre chose, de ses amis américains, en leur disant, si vous voulez, on va vous donner quelques conseils sur les drones et comment essayer d'en intercepter au maximum. Non, Macron derrière, c'est franchement, j'ai l'impression que il ne peut pas exister nationalement. Il se voit comme chef de guerre à l'international, mais d'un petit continent, d'un petit pays maintenant qui est devenu petit. Le sud global n'a plus rien à craindre maintenant des puissances, enfin ex-puissances occidentales. Faut pas avoir peur de le dire, la France est quand même devenue un pays sous-développé.
Il veut une sorte de leadership parce qu'il pense être président européen.
C'est de la com. C'est vrai que le leadership au niveau de l'armée, se valait avec la Grande-Bretagne. Maintenant, ça a changé. Il se voit en tant que leader de l'Europe face à un chancelier qui essaye de prendre mais qui est plus à la botte d'Israël qu'autre chose, notamment sur ses positions. Bah, bref, tout ça, en fait, c'est vrai que ça sent l'hypocrisie. Il essaye d'exister à côté des États-Unis, à côté d'Israël, et en fait, derrière, effectivement, on sent le double discours, on sent le deux poids, deux mesures. Vous aviez dit tout à l'heure, une école avec presque 180 victimes, la plupart des jeunes filles, des écolières, et ça, pas un mot, ou peut-être quelques lignes comme ça, aucune condamnation ferme et directe, et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire, hors cadre totalement du droit international, on acquiesce, on se couche, et on continue comme ça la mascarade. C'est anormal. Ce président ne représente plus la France, et la France maintenant est totalement en décrépitude. Je vois mal l'avenir avec tout ce qui se présente face à nous.
Qu'est-ce que t'en penses, Charbel ? C'est-à-dire que Macron, il met de côté la politique nationale pour se montrer dans son meilleur jour international. Peut-être qu'il y a une partie de son électorat qui veut aussi le voir comme ça ?
Qu'ils y aillent. Non mais attends, moi je vais te parler cash. Hein. C'est comme à l'époque quand on nous a expliqué qu'il fallait envoyer des soldats en Ukraine. Il y a 18 600 000 personnes qui ont voté pour lui, il y a des brigades internationales, feu, allez-y les gars. Non mais les gens ils parlent de la guerre, comme si c'était,
Toi t'es casque bleu, faut le dire.
Non, attends, j'ai été soldat français.
Oui, soldat français.
Et on a eu une mission à Nakoura, au sud Liban, en 2001, à cheval entre 2001 et 2002. Enfin, je veux dire, juste après le départ des Israéliens. Donc, la guerre c'est pas ce que, comme tu dis, Apolline de Malherbe raconte sur BFM TV, RMC. Et tu parles d'Apolline. Mais ce qui fait Macron aujourd'hui, je sais même pas s'il se rend compte lui-même. On a l'impression que c'est que du brouillon ce qui fait ce mec-là. Remonter au discours sur l'île longue. Non mais qu'est-ce que c'est que cette posture ? Mais qui a cru une seule... Mais j'ai regardé la tête des militaires qu'il y avait autour de lui. Je suis persuadé, parce qu'il faut applaudir quand vous recevez un ordre, c'est comme ça. Mais même les mecs qui étaient là, mais ils ne croyaient pas une seule seconde Je veux dire, c'est pas un chef de guerre. Il n'a rien à voir avec un vrai chef
mais
de
mais
guerre.
Il se prend pour un chef de guerre.
Il se prend pour un chef de guerre. C'est pas ce que je dis, mais c'est... déjà le discours sur l'île longue, c'était du grand n'importe quoi. Tout le monde et les partis politiques, ils ont tous fait AV. Je veux dire, ils se sont tous couchés comme des carpettes devant lui. Et ensuite, il nous annonce ça. Et entre-temps, il a fait son discours, tu sais, son discours le lendemain, là, de l'île longue. Et Roselyne Bachelot était en extase devant lui. Les autres, parce que j'ai écouté Roselyne, elle a dit que l'unité du pays, on a senti qu'il avait reconstruit, je ne sais plus comment elle a dit ça, l'unité du pays. Mais l'unité du pays dans quoi ? Eh, redescendez sur terre, les mecs. C'est pas les partis politiques. Alors, si on suit aux partis politiques, oui, eux, ils étaient tous unis derrière leur président. Mais faites un sondage dans la population et demandez-leur si les discours les ont convaincus. Mais bien sûr que non. Personne n'a envie de voir son gosse aller servir de char à canon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais qu'est-ce que tu vas aller foutre dans le détroit d'Hormuz ? Poutine, il vient de parler aujourd'hui, là. Et je ne sais pas si tu as vu le discours de Poutine. Enfin, je veux dire, on est... qu'il y aille Macron ou pas, de toute façon, tout ce qu'il va récolter, ça va être des pauvres soldats français qui vont se faire tuer. Parce qu'on va se prendre des missiles, c'est clair et net. Je ne sais pas si vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères iranien aujourd'hui, Araghchi, je crois. Non, Larijani, il a dit, de toute façon, tant qu'il y aura la guerre, il n'y aura aucune sécurité possible dans le détroit d'Hormuz. Qu'est-ce que ça veut dire en iranien ? Ça veut dire que tant qu'il y a la guerre, tant que vous n'arrêtez pas de nous tirer dessus, le premier qui va passer, on va le dézinguer. À moins que ce soit un russe ou un chinois. Mais on va le déglinguer. Donc ça va se passer comme ça. Et donc, Macron, vous n'avez pas remarqué qu'il y allait tout seul ? Personne n'a dit qu'on va y aller, hein. Les Européens. Là.
Non, il y a Starmer, mais il n'est pas dans le...
Non, mais Starmer, il s'est fait calmer par Trump. Il a dit, j'ai pas besoin de toi, ton attitude, on en reparlera plus tard. Donc, on s'en souviendra. C'est exactement ce qu'il lui a dit. Il y va tout seul. Merz, il est aux abonnés absents. Ursula von der Leyen, museau. Rien du tout, elle nous a parlé de ces 800 milliards, là, aujourd'hui. Et tout le reste, mais ils sont aux abonnés absents.
Mais ce qui est inquiétant, je trouve, c'est que au départ, avant que cette opération commence, on avait vu le porte-avions américain qui a fait une escale en Grèce, parce qu'apparemment les soldats auraient saboté les toilettes parce qu'ils voulaient pas aller combattre. Voilà. Et puis maintenant, résultat des courses, c'est les Français qui y vont. Donc est-ce que finalement, il n'y a pas un bateau français qui va jouer le rôle en fait de la cible ?
Oui, c'est ça.
C'est ça. On va être le fusible.
Comment ça, le fusible ?
Ça aurait dû être un fusible.
Mais parce qu'ils vont nous envoyer au casse-pipe, mais parce que Trump va vouloir se venger demain. Macron, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre.
Alors, il y a un bateau français qui va couler et ça va être l'occasion de faire des escalades nucléaires.
Je rebondis là-dessus.
Vas-y, Jean-Michel.
C'est tout à fait bien vu parce qu'ils sont en train, au 11e jour de la guerre, c'est en train de partir en couille autant qu'il est possible. Il n'y a plus de munitions, il n'y a plus d'intercepteurs. Ils sont dans une impasse. C'est un piège diabolique. Donc, ce que l'on peut craindre, c'est qu'il y ait une attaque sous faux pavillon, sous faux drapeau, non pas contre l'Iran, mais contre, effectivement, un bâtiment comme pour faire entrer la France en guerre, et l'OTAN étant ce qu'il est, avec le fameux article 5, c'est pour essayer d'entraîner l'Europe. C'est très possible, puisqu'on sait que, par exemple, l'attaque sur Chypre, m'arrête ici, l'attaque sur Chypre est visiblement une attaque sous faux pavillon, une provocation.
De la part de qui ?
Bah de la part d'Israël.
Oui. D'accord.
Et peut-être même aussi l'attaque de le drone sur l'Azerbaïdjan.
Aussi l'ambassade américaine en Arabie Saoudite, il semblerait que ce soit fait.
Ou les champs ou un champ pétrolifère, un champ pétrolifère saoudien.
Alors attendez, pourquoi sous faux drapeau ? Qu'est-ce que c'est ?
Non, mais à partir du moment où l'Iran déjà communique sur le fait qu'ils n'ont pas envoyé de pourquoi ils se cacheraient ? Ils savent exactement comment communiquer et quelle cible viser. Et ils le disent déjà. Ils disent, voilà, on a visé tel pays. Par contre, là où on n'a pas visé, c'est Chypre. Et c'est là aussi... Voilà, donc faites attention, et on le sait pertinemment dans l'histoire, qu'il y a énormément d'attaques comme ça sous faux drapeau pour déclencher une guerre qui n'est pas forcément voulue. Et effectivement, là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que le seul vrai chef... d'État digne de ce nom en Europe, c'est Pedro Sanchez, qui a su vraiment préserver son pays et de l'humiliation et de se dire « je ne vais pas rentrer dans cette mascarade hors du droit international ». Macron, lui, met deux pieds dedans, il nous ramène le Charles de Gaulle, il nous ramène le Charles de Gaulle, bah voilà, pour faire quoi ? La police
des droits d'homme,
il va couler ce bateau, c'est pas possible.
Bah, c'est peut-être pour ça il est hors d'âge.
Ouais, il peut couler ce bateau ?
Bien sûr.
Charbel.
Bien sûr qu'il peut couler, bien sûr, il se fait torpiller, il coule.
Mais qui pourrait le torpiller ?
Écoutez le...
Attends, le Charles de Gaulle, c'est un fleuron, paraît-il.
Oui, bien sûr.
Avant, c'est pas un fleuron ?
C'était un fleuron.
C'était un fleuron.
C'était un fleuron quand ?
C'était un fleuron il y a peut-être une dizaine d'années.
D'accord. Peut-être. Et aujourd'hui, ça ne l'est plus.
Mais aujourd'hui, c'est un temps de ferraille. Il est dépassé, tout le monde le sait. D'ailleurs, il n'a pas eu une panne ou deux là, en partant en Méditerranée. Alors, bien sûr, BFM n'en ont pas parlé. Non, mais tu disais tout à l'heure, là, enfin à l'instant, que les Iraniens, ils disent ce qu'ils font. Mais il faut écouter, encore une fois, Larry Janis qui l'a dit. Il a dit, tant qu'il y aura la guerre, il n'y aura aucune sécurité dans le détroit d'Ormuz.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNC 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Ah, je ne parlais pas du détroit d'Ormuz. Je parlais de quand les cibles, par exemple, comme cibles.
Oui, d'accord. Mais là, moi, je reviens sur Macron. Macron, il a dit, je vais aller... La France travaille, c'est exactement ce qu'il a dit, travaille sur un plan opérationnel pour sécuriser le détroit d'Ormuz.
Il va sécuriser rien du tout, il n'en a pas les moyens.
Et donc, mais il n'en a pas les moyens. Donc, avec le peu de moyens qu'il a envoyé, d'ailleurs, il nous reste trois bateaux qui sont à quai, dont un pétrolier ravitailleur, là, et je crois qu'ils sont en révision, en maintenance. Mais ce qu'il enverra là-bas se fera désinguer par les Iraniens, ou peut-être sous faux drapeau. Mais moi, je pense plus que les Iraniens vont montrer leur crédibilité, encore une fois, en désinguant quelque chose.
Ça peut se passer comme ça, Laurent ?
Oui, je pense effectivement l'attaque sur Chypre. Les Chypriotes ont dit que le drone qui avait bombardé la base britannique ne venait pas d'Iran. Donc d'où est-ce qu'il vient ? Bon, on a une petite idée. Ça commence aussi par I.
Tombé du ciel.
Voilà. Mais je pense qu'effectivement la France va peut-être jouer le rôle du fusible, du mouton sacrificiel, en fait, un bateau, alors le Charles de Gaulle ou un autre, hein, puisqu'on en envoie une dizaine.
Bah, si le Charles de Gaulle coule, ce serait quand même...
Ce Charles de Gaulle ou un autre...
Bah, il faut un électrochoc pour déclencher la guerre.
Alors ça permettrait soit de déclencher la guerre, soit pour les États-Unis de jouer le rôle, en fait, de la désescalade en disant, bon, les Français ont été sacrifiés, et en fait, ça permettrait une désescalade pour les États-Unis. Parce que je voudrais apporter une vision un peu plus large de la question. C'est en fait le séquençage stratégique de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est-à-dire, on a commencé d'abord par une espèce de coup d'État cosplay en Venezuela, où en fait on kidnappe. C'est même pas un changement de régime, en fait. C'est une mise au pas d'un régime au Venezuela. Là, on était en Iran, c'est le gros morceau avec ce qui se passe en ce moment, qui pourrait avoir une escalade. Peut-être même nucléaire, ou en tout cas on parle d'un potentiel d'une bombe sale ou quelque chose comme ça. Je pense que pour les États-Unis, pour Donald Trump, l'idée d'une désescalade maintenant, en réclamant la victoire, serait quelque chose de tout à fait séduisant, parce qu'il y a les midterms qui arrivent.
Capitulation sans condition de l'Iran.
Mais ensuite, voilà, il irait sur son réseau social en disant, ça y est, on a gagné, les Français ont coulé, on a négocié, j'ai fait un deal avec les Iraniens, et on arrête. Et donc, lui, il n'a pas perdu de soldats, donc il peut continuer les élections. Et ensuite, si, pour renforcer ça...
Il a perdu 6.
Oui, enfin soi-disant 6, officiellement, mais apparemment, c'est des centaines. Hein. Voilà. Mais surtout, ce qui va se passer, moi, je serai à la place de Cuba, je m'inquiéterais, parce que la prochaine, dans ce séquençage stratégique, le Venezuela, c'est, on va dire, la mise en bouche pour voir un peu comment réagit l'électorat. L'Iran, c'est en fait la pièce maîtresse, mais on voit que c'est un échec, c'est donc peut-être encore trop tôt pour Israël et les États-Unis pour réussir. Donc on descend et on refait une petite victoire rapide, pas chère, à Cuba. Voilà, donc c'est comme ça que je vois ce séquençage.
Cher Jean-Michel, ça peut dégénérer. Parce que tu as parlé de Troisième Guerre mondiale, là à l'instant.
Rappelons que les opérations sous faux drapeau parfois échouent. En 67, il y a eu l'attaque de l'USS Liberty. Il y a eu une trentaine de matelots américains qui ont été tués. Le bâtiment, qui était un bâtiment d'observation, de repérage, a été attaqué par la chasse israélienne. L'attaque a duré plus de 3 heures. Et il n'y a jamais eu d'excuse de la part d'Israël. Mais il s'agissait d'impliquer l'Égypte pour élargir la guerre, la renforcer, etc. Ça n'a pas marché. Il y a eu aussi, on va pas revenir sur l'affaire Yalon, dont il y a des gens qui ne reculent devant rien, qui n'ont peur de rien. Imaginez, effectivement, si le Charles de Gaulle allait par le fond, eh bien, l'Union européenne serait bien obligée de se dresser, comme on parlait déjà des attaques provocation. On n'a pas mentionné en Arabie Saoudite tel champ pétrolifère ou telles installations. Voilà, d'Aramco, il est vraisemblable que là aussi on essaye d'allumer la mèche. Or les gens du Golfe, les Émiratis, les Saoudiens, les Omanais, etc., ils vont à reculons. Ils ont compris qu'ils avaient plus...
Il y a pas un qui tire.
D'abord, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas protégés par les Américains.
Bien sûr.
Les Américains n'ayant plus de munitions. Hein, là, il y a des avions, je m'arrête ici, il y a des avions cargo qui arrivent du Japon, qui arrivent de Corée, qui arrivent de partout à travers la planète pour apporter les munitions qui font gravement défaut. Donc, si la guerre ne s'arrête pas maintenant, et là, M. Trump est dans une impasse, ce sont les marchés. Aujourd'hui, on est à 115 dollars le baril.
Oui, mais il ne peut pas arrêter comme ça les
Mais non, justement, il faut qu'il s'arrache, qu'il s'extrait du piège dans lequel il s'est mis lui-même.
Vous n'avez pas remarqué que les pays du Golfe...
Farid, comment s'en extraire, Farid.
Sachant que c'est le roi de la pirouette et le roi de l'annonce, on va dire, d'une autre dimension, rappelez-vous hein, comment il racontait, il disait c'est une réalité alternative. Donc, et ça, un président... Enfin, de toute façon, moi, dans ma vie, j'ai jamais vu un président avec très peu de vocabulaire. J'ai l'impression quand il parle...
Oui, bon, c'est les Américains, son... après.
Ouais, ouais. Non, mais non, on a eu quand même...
George Bush, c'était comme ça. Hein.
On a eu des présidents un petit peu plus éloquents. Non, mais là, effectivement... C'est très simple, hein. Sa base, comme tu l'as dit, c'est américain, donc bon, il pourra leur retourner le cerveau comme il veut, mais derrière, concrètement, sur le champ politique, comment il pourra s'en extraire? Peut-être, comme on a parlé tout à l'heure, de faire sauter le plomb français. Peut-être. Effectivement, ça pourrait être une solution. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il va, il va faire en sorte de se désengager vis-à-vis d'Israël? Parce que, à mon avis, ça risquerait d'être une potentielle porte de sortie pour Trump. Mais je vois pas cette solution-là pointer le bout de son nez. Donc, à l'heure actuelle, honnêtement, il s'est mis dans le piège lui-même. Il a cru qu'effectivement, ça allait être un coup à la Maduro... claquant des doigts comme ça, il allait finir cette histoire, mais il ne savait pas que l'Iran c'était un grand pays, qu'ils avaient préparé effectivement cette attaque et surtout cette contre-attaque. Et maintenant, comme qui dirait, paraît-il,
les services de renseignement ne travaillent pas bien, ou au contraire que Trump est fondamentalement désinformé.
Non, à mon avis, parce que ce qu'on a de en off, c'est que effectivement, il n'écoute personne. Il est dans une autre dimension où pour lui, les États-Unis sont au-dessus de tout, etc. Là, la démonstration de force de l'Iran, quand même, vis-à-vis du monde entier, ça a été une leçon incroyable. Elle a, on va dire, tiré dans tous les sens. Elle a fait mouche un petit peu partout. Les services de communication, maintenant, les États-Unis n'ont plus du tout un radar qui fonctionne dans la région. Les appareils sont totalement aveugles sur place. Et ça, c'est un coup de génie. Et ça, ils ne voyaient pas l'Iran
c'est
faire cela. Peu importe. Ben, bien sûr. Peu importe qui fait ça. Disons que, même si c'est les Russes ou les Chinois, disons que l'Iran, on va dire, que a réussi à faire mouche sur ce coup-là. C'est-à-dire que maintenant, c'est eux qui ont les cartes en main et c'est eux les maîtres du temps. Et là, récemment, ils sont en train de chouiner en disant « Oui, il faudrait peut-être penser à un cessez-le-feu ». Bah, l'Iran, maintenant, les cessez-le-feu, on leur a déjà fait le coup avec la guerre des 12 jours, où ils s'en foutent un petit peu des voilà, un accord signé ce jour-là, il n'y a que ceux qui y croient. Ouais, qui y sont attachés. Mais force est de constater que ni les États-Unis ni Israël ne tiennent, on va dire, leur parole. Donc, ce que je vois comme sortie pour Trump, elle est très compliquée à l'heure actuelle. C'est-à-dire
elle est impossible.
Pas impossible, très compliqué. Là, mais tout est possible.
Qu'est-ce que t'en penses, Charbel? Elle est possible d'être sortie?
Je suis d'accord avec toi, Farid, parce que là, clairement, mais très clairement, hein, moi, je regarde les attitudes des alliés, des...
L'attitude de la France, du coup, tu regardes. Hein.
Quand je regarde l'attitude des Chinois, et l'attitude de Poutine quand Khamenei a été tué. Non mais vous avez vu les déclarations? On avait l'impression que le mec, bon bah c'est cynique, hein. C'est pas conforme au droit international, c'est pas bien ce que t'as fait, Donald.
Et alors?
Et alors?
Qu'est-ce que t'en conclus?
Quand je faisais preuve d'un grand complotisme l'autre fois, quand je te parlais de la rencontre à Anchorage en Alaska, mais je suis persuadé que ces mecs-là, quand ils se sont rencontrés et se sont partagés le gâteau, tout le monde les prend pour des fous, pour des ceci, pour des cela. Mais je suis persuadé
que c'est ça. Quoi, la
Trump
Chine,
et Poutine. Garde tes positions en Ukraine. Moi, je fais un retour sur investissement. Je veux une partie des terres rares. Parce que mon prédécesseur vous a lâché, d'après lui, hein, 300 milliards. Les deux Amériques, est-ce qu'il s'y passe? Tu me fous la paix, tu me laisses tranquille. Le Groenland, j'en ai rien à foutre du Groenland. On va dire aux Européens que je vais sauter sur le Groenland. Ça va bien les occuper pendant ce temps-là. En attendant, ils sont tous tombés dans le panneau. Augmentez vos budgets de défense. Ils ont tous augmenté les budgets de défense. Et ils vont acheter américains. Et toi, tu vas continuer à faire tourner ton économie de guerre. Tu vas vendre ton pétrole. Et puis, on trouve une solution avec l'Iran pour en terminer avec la République. C'est ce que j'imagine. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Attends, laisse-moi finir.
Vas-y.
Pour en terminer avec la République des Mollahs, parce qu'il y a des gisements de gaz naturel. Et ça, personne n'en parle au large du Liban, qui est un deuxième Qatar.
Mais attends.
Mais ils ne veulent pas exploiter depuis des décennies. Ils ne veulent pas exploiter depuis le président Emil Lahoud, qui était largement avant le président Aoun et avant le premier président Aoun. Donc, et ils ne voulaient pas les exploiter parce qu'ils avaient peur que le Hezbollah mette la main dessus. Et ça, tout le monde le sait. Sauf ici, on n'en parle pas.
Tu crois pas dans ce scénario, Farid ?
Non, je pense pas. Parce que le service de renseignement, sur ce coup-là, en tout cas, a très mal joué. Sachant que Trump se basait, soi-disant, sur la rue pour faire renverser le régime des Mollahs, comme ils disent. Ils ont remis une personne, le fils, à la place du père, qui maintenant a une excuse supplémentaire, et toute une génération à suivre auront encore plus de haine vis-à-vis des États-Unis. Il faut le savoir que la haine des États-Unis venait, la nouvelle génération ne l'avait pas forcément, parce qu'ils n'avaient pas vécu dans leur chair ce genre d'attaque. Là, ils l'ont. Donc ça leur donne, comme dans leur narratif, un resserrement sur le nationalisme iranien.
Pour dire qu'ils ont la haine des États-Unis ?
Non. C'est le postulat qu'on pouvait imaginer.
Oui, non, mais là,
à partir de 79.
Là, avec le fils de Khamenei, qui est encore plus radical.
Ils se sont fait bombarder, des jeunes filles assassinées. On a tué son père, sa femme.
Sa femme, son fils.
Bah, bien sûr.
Ou sa fille.
Non, mais je parle.
Jean-Michel.
Je te parle en général du peuple iranien.
Mais avec ce qui se passe, tu penses que le fait de se prendre des bombes
au premier degré,
ça va faire en sorte...
Attendez, Jean-Michel rebondit.
La première strate, c'est pas mal vu, c'est plutôt bien vu qu'il y ait des accords Trump-Poutine. Mais en politique, en diplomatie, il y a un truc qui s'appelle le double langage, voire le triple langage. Ce que fait ma main droite, la main gauche l'ignore. Je te donne un exemple. Je ne sais pas combien il y a eu de F-16 qui ont été démolis en Iran. Il y en a un certain nombre. Il y en a encore un ici, là. Il y a les trois qui sont tombés au Koweït. Et alors là, on nous baratine, puisqu'on nous a dit que c'est un tir ami, c'est-à-dire les intercepteurs koweïtiens, américano-koweïtiens, qui ont descendu ces trois avions, que l'on voit descendre en... C'est impossible, parce qu'il y a des systèmes cryptés extrêmement puissants qui permettent d'identifier la signature des avions. Mmh. Donc c'est impossible. Là, il y a une thèse qui veut que, en fait, aux commandes des avions iraniens, aujourd'hui, se trouveraient des pilotes russes. Parce que ça ne se forme pas...
Bien sûr, c'est possible.
Ça ne se forme pas comme ça, un pilote. On passe pas du... C'est pas comme une bagnole.
Bien évidemment.
Il y a ce qu'on appelle la mémoire musculaire et autres. Il faut des... Ça va très vite. Et donc, impossibilité que ce soit des pilotes iraniens. Donc, ce qui veut dire que la Russie est engagée, et justement, Trump se plaint amèrement que l'acquisition des cibles se fasse à travers par le truchement des systèmes satellitaires, aussi bien chinois que
russes. Est-ce que la Chine pourrait s'engager, Charles Laurent ?
Elle est déjà engagée, mais elle n'est pas engagée militairement comme certains médias souhaitent le dire. Elle est engagée parce que, effectivement, comme dit Jean-Michel, elle a mis à disposition de l'Iran son système de satellite Beidou, qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus puissant que le GPS. Donc c'est ce qui lui permet qui permet aux missiles d'avoir cette précision qu'on a vu pendant les frappes dans toute la région. Elle a mis aussi à disposition des systèmes de radar. Et ensuite, on se rappelle qu'elle a aidé l'Iran à lutter contre la révolution de couleur qui a eu lieu il y a un mois. Mmh. Parce que là, il y a eu la guerre, mais avant, il y a eu une tentative de révolution de couleur. Et ça, c'est les Chinois qui, justement, par la mise à disposition d'un certain nombre de radars, ont permis de démanteler tout le système Starlink qui était utilisé par, on va dire, les terroristes les agitateurs. La Russie aussi, effectivement, en a fourni. Donc la Chine est engagée, au niveau du matériel. Elle a aussi un énorme effort diplomatique qui est derrière l'Iran depuis très longtemps. Elle soutient l'Iran et la position de l'Iran. Et là, elle, Elle a déclaré, le ministère des Affaires étrangères aujourd'hui a encore déclaré que la responsabilité était évidemment du côté israélo-américain et anglais, et qu'il fallait éviter l'escalade et retourner aux Nations Unies. Mais ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins entendu. Le droit international, comme tu disais, est mort.
Les gens qui n'ont rien à faire, en fait.
Voilà, il est mort.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.